Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien branchés sur les ondes de Radio Campus Amiens. Pour animer cette émission, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Jeanne. Bonjour.
Bonjour Anna, aujourd'hui on vous propose de parler de nouvelles technologies et plus particulièrement d'intelligence artificielle. Ce soir sur Zoom de 18h30 à 20h, l'Université Populaire d'Amiens organise une rencontre au débat sur ce sujet donc avec Gilles Dequin. Gilles Dequin qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour nous en donner un avant-goût aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc enseignant-chercheur en informatique à l'Université de Picardie-Jules Verne et vous êtes aussi directeur de l'unité de recherche modélisation, information et systèmes. Vous animez donc la rencontre de ce soir avec l'Université populaire de Amiens autour de la thématique intelligence artificielle, réalité, mythe et enjeux. Déjà pour commencer, est-ce que vous pourriez nous définir qu'est-ce qu'on entend réellement par intelligence artificielle? Quels sont les critères qui nous permettent de faire la différence entre une machine qui est une intelligence artificielle et une machine qui n'est pas une intelligence artificielle?
Eh bien, l'intelligence artificielle au sens général, alors on peut même reprendre le sens du rapport Villani de 2018, ça regroupe toutes les techniques, l'art, qui consiste à fournir aux machines, par l'intermédiaire de calculs, des comportements que l'on pourrait caractériser d'intelligents. Alors intelligent, la subtilité réside dans le fait de savoir ce qui est réellement intelligent. En fait, ça permet, au sens de l'intelligence artificielle, on caractérise ça plutôt à reproduire l'expertise humaine.
Par exemple, dans les outils qui nous entourent au quotidien, lesquels peuvent être considérés comme des intelligences artificielles? Est-ce que par exemple une assistance vocale sur téléphone, c'est une intelligence artificielle?
Oui, une assistance vocale sur téléphone, c'est une intelligence artificielle à partir du moment où la machine est en capacité d'analyser les phonèmes, ce qui est dit, le sens de ce que fournit l'interlocuteur et que ça ne se résume pas forcément à sélectionner des chiffres sur votre téléphone pour être aiguillé. Bon, là, je vous livre mon opinion, puisque au sens du rapport Villani, en fait, l'intelligence artificielle regroupe tout, en gros, l'informatique, tout simplement.
Le mathématicien Alan Turing avait imaginé un test nommé ensuite le test de Turing afin de déterminer si une machine était une intelligence artificielle, le critère étant la capacité de communiquer de cette machine et de faire croire à un humain qu'elle est humaine. Est-ce que ce test est considéré comme valide?
On commence à le dire, donc ça c'est tout est question d'opinion, c'est-à-dire en gros est-ce qu'un interlocuteur humain à distance pourrait faire la différence dans le cadre d'une conversation classique, est-ce qu'il pourrait faire la différence entre un humain et une machine? Tout dépend du sujet dont on discute, à dire vrai. Donc pour moi non, le test de Turing n'est pas encore atteint.
L'usage du terme d'intelligence artificielle pose quand même une question. Peut-on vraiment parler pour ces programmes informatiques d'une forme d'intelligence comme on parle d'une intelligence humaine ou animale?
Pas selon moi, encore une fois, parce que là, bien entendu, ce que je vous livre, il y a une part de mon opinion. Donc non, enfin, pour répondre précisément à votre question, pour moi non. Tout simplement, par exemple, parce qu'à ce jour, les intelligences artificielles ne disposent pas du sens commun, par exemple. Peu d'intelligences artificielles, voire même quasiment aucune, sont capables de produire d'autres intelligences artificielles. Donc tout ça, si on commence à parler d'intelligence artificielle que l'on oppose à l'intelligence biologique ou l'intelligence humaine. On parle bien de bêtises humaines. Est-ce qu'on parle de bêtises artificielles? J'ai pas encore entendu le terme dans les médias.
Donc, ces calculs complexes qui ont forcément été imaginés, paramétrés et programmés par une intelligence humaine, est-ce qu'à partir de là, il n'y a pas toujours une dépendance de la machine à l'être humain ?
Pour le moment, oui. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas dans un problème de régression infinie, hein, où voilà, qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. Non, là, le cadre est très clair, c'est l'humain qui crée les intelligences artificielles jusqu'à preuve du contraire.
Donc je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, ça veut dire que la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle réside dans les imperfections au final de l'être humain, dans sa capacité à évoluer, à changer d'avis peut-être ?
Ah complètement. Enfin bon, l'intelligence humaine est imparfaite, l'intelligence artificielle l'est tout autant. Par contre, elle dispose de la capacité d'une capacité de calcul dont ne dispose pas forcément l'humain. Mais des notions aussi simples et quotidiennes pour l'humain que voilà, la tristesse, la joie, l'amour, tout ça sont des choses qui n'ont absolument aucun intérêt et aucune réalité dans le cadre d'une intelligence artificielle, quoi. Faut bien on est au même niveau que lorsqu'on était au début du XXe siècle, où on imaginait que la mécanisation du geste allait remplacer le geste humain. C'est vrai, dans certains domaines, ça n'allait absolument pas dans plein de domaines. Voilà, il n'y a pas de robot artiste, par exemple. Ou en tous les cas, qui...
Ils ont commencé à en développer quand même des...
Il y a quelques robots artistes, mais est-ce que ces robots ne résultent pas d'un pilotage, par exemple, de l'humain ? Enfin, ça résulte forcément d'une création humaine, de toute façon.
Il n'y a pas forcément de créativité qui vienne de la machine en elle-même ?
Non. Enfin, pas pour moi.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, dans les milieux scientifiques, mais aussi dans le milieu de la science-fiction, par exemple, on commence à émerger tout un tas de questionnements quant au possible développement de la robotique, puis de l'informatique, puis ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Quels sont les grands enjeux, selon vous, autour de cette question du développement et du futur de l'intelligence artificielle ?
Ah, les enjeux sont considérables, puisque... juste avant, je prenais l'exemple de la mécanisation du geste au début du XXe siècle. On assiste, j'ai l'impression, à peu près la même chose, si ce n'est que il y a un caractère un peu bluffant et déroutant, puisque on touche à toutes les tâches du secteur tertiaire de nos sociétés, c'est-à-dire un secteur qui était exclusivement réservé à l'humain. Les tâches de bureau, les tâches de réflexion, de lecture de documents, d'interprétation, de récolte de données, enfin tout ce genre de choses peut désormais se faire très efficacement à l'aide de l'intelligence artificielle, oui. Enfin, à l'aide de ces technologies en tous les cas.
Dans le domaine de la santé également, il y a quand même beaucoup de choses aussi que permet l'intelligence artificielle. Il me semble qu'à l'UPJV, vous avez vous-même avec d'autres chercheurs au printemps dernier participé à un programme d'intelligence artificielle pour aider les soignants à gérer les flux de Covid.
Tout à fait. Dans le cadre, dans la première semaine, enfin la seconde semaine de mars, donc au tout début du confinement, le CHU, donc qui prévoyait une vague, à raison d'ailleurs, une vague d'arrivée au service des urgences, souhaitait bénéficier de ce type de technologie pour fluidifier les arrivées aux urgences et puis l'admission des patients et réduire les temps d'attente et faire ce qu'on appelle de la prédiction d'hospitalisation sur la base d'un questionnaire qui est du questionnaire classique que vous remplissez lorsque vous arrivez aux urgences. Enfin, plutôt que le personnel de santé remplit pour vous lorsque vous arrivez aux urgences. Et donc, effectivement, on a développé un modèle donc avec le docteur Émilien Arnaud du service des urgences qui permet de faire ça. Et le modèle est toujours en vigueur au CHU. Il est exploité.
Et quelles autres exploitations, par exemple, de l'intelligence artificielle vous semblent prometteuses, vous, dans les années, dans le futur à venir ?
Typiquement, on parlait de santé. Je vais parler de ce qui se passe aussi sur Amiens. Tout ce qui touche à la robotisation du geste chirurgical, et à l'exploitation des données qui résultent de cette robotisation, c'est pour moi un enjeu majeur, en tous les cas au niveau territorial, c'est un enjeu majeur. Après, d'un point de vue plus global, donc si on passe du niveau territorial au niveau mondial, donc plus général, enfin, les enjeux sont multiples et ils sont tellement multiples que bon, sous certains aspects ça devient un peu délirant. Donc on peut, voilà, on se rend compte, on voit passer dans les médias, voilà, des IA qui sont capables de rendre la justice, de prévoir les crimes. Techniquement, tout ça est effectivement envisageable, hein, c'est crédible. Bon, voilà. Pour autant, est-ce que c'est un enjeu? Je ne sais pas.
Il y a un certain nombre de critiques aussi qui émergent, qui ont toujours été là d'ailleurs sur le développement de l'intelligence artificielle. Il y a par exemple l'écrivain Alain Damasio qui critique ça particulièrement, qui dit que l'intelligence artificielle peut être un frein à l'intelligence, à l'autonomie des êtres humains. Si on délègue trop parfois à la technologie, on s'amputerait un peu de notre capacité à agir, à penser par nous-mêmes. Et aussi, on leur déléguerait peut-être trop de pouvoir.
Bon, c'est vrai sous certains aspects. Donc, je peux partager le point de vue. Bon, je ne le partage pas complètement, puisque l'intelligence artificielle, même si bon, elle suscite des craintes, à juste titre, et des critiques, bon, encore une fois, ça reste que de l'informatique. Hein, donc on critique à ce moment-là l'informatique et bon, le monde numérique qui fait quand même grandement partie de notre écosystème, enfin de notre vie. Là où je suis moins d'accord avec ça, c'est qu'elle rend quand même des services qui sont énormes. L'analogie fréquente bon, que je pourrais faire... on pourrait la comparer à un chien d'avalanche, en fait, où, eh bien, lorsque vous avez un accident dans une avalanche, on pourrait tout à fait se passer du chien, sauf que lorsque le chien est là, eh bien, on va beaucoup plus vite, on est beaucoup plus efficace. Et ce chien qui aide l'humain, il a été formé et entraîné par les humains pour résoudre cette tâche spécifique parce qu'il a des capacités particulières. Donc, on coche à peu près le même genre de cases, quoi. Et donc, en ce sens, c'est tout aussi bénéfique.
Il y a une forme de fascination et d'enthousiasme qui a toujours été autour de cette question de l'intelligence artificielle, mais aussi des craintes, comme vous le disiez un peu plus tôt. Il y a une crainte notamment que cette technologie ne dépasse l'être humain en termes de capacité cognitive et n'en vienne à pouvoir nous contrôler. Il y a pas mal de films, de science-fiction, de livres à ce sujet. Est-ce que vous pensez, selon vous, est-ce qu'il faut craindre l'intelligence artificielle ou au contraire se dire, bah non, c'est un outil et c'est ce que les humains en font qui va déterminer les années à venir?
Pour l'instant, c'est un outil. C'est-à-dire la crainte n'est pas justifiée. Pour autant, est-ce qu'elle ne doit pas l'être à terme, c'est-à-dire avec l'évolution de la technologie, des usages, est-ce qu'elle ne pourrait pas surpasser les humains, ce qui supposerait à ce moment-là qu'elle devienne autonome? C'est une option, oui, c'est envisageable. Donc, en ce sens, elle est légitime. Par contre, c'est pas pour tout de suite, quoi. Si jamais une telle chose devait arriver, je vois rien, en tous les cas, autour de moi, qui me permette d'imaginer ça, pour l'instant.
Certains évoquent également qu'il y aura un manque de débat démocratique aussi autour de cette question et de connaissances, en fait, dans la société par rapport relativement à ces enjeux d'intelligence artificielle et d'avancée des nouvelles technologies. Est-ce que vous pensez que c'est important de sortir un petit peu des fois toutes ces questions-là de la sphère scientifique pour la placer dans la sphère démocratique et lui redonner une dimension politique?
On peut lui donner une dimension politique. D'ailleurs, on peut donner des dimensions politiques à peu près à tout. Bon, moi, je suis pas spécialement expert de tout ça, donc je vais pas forcément m'étendre sur ce type de sujet. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour parler de ça. Bon, de mon point de vue, je livre donc juste mon opinion là de citoyen. Bon, il n'y a pas lieu, en tous les cas, enfin, je ne suis pas certain que l'intelligence artificielle ait besoin de tant de débats démocratiques. Si, par exemple, on parle de la reconnaissance faciale et du fichage des humains, bon, le problème de départ, c'est simplement d'avoir posé des caméras. Enfin, le débat démocratique doit se poser sur le fait d'avoir disposé des caméras dans les environnements, enfin, dans les espaces publics. C'est là qu'est le sujet. C'est pas forcément sur de comment on exploite les images, quoi.
Donc, c'est pas la question n'est pas sur l'outil, mais plus sur l'utilisation humaine et politique.
Pour moi, oui.
Vous animez donc une conférence avec l'Université populaire d'Amiens sur le sujet de l'intelligence artificielle ce soir. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette conférence-là et qu'est-ce qu'on pourra y découvrir?
Oh, eh bien, c'est l'UPA m'a sollicité il y a quelques semaines pour ça. Ce sont des gens qui sont charmant, donc j'avais pas de raison de refuser de participer à ça. C'est à distance compte tenu des circonstances sanitaires actuelles. Bon, ce dont on va parler, je vais essayer de parler un peu de technique malgré tout. Pourquoi pas. Et bon, bien entendu, ça sera une présentation qui sera essentiellement vulgarisante et qui présentera les enjeux, enfin une certaine réalité de l'intelligence artificielle et de ses techniques et de ses usages. Et après, le débat, je ne sais pas ce que ça pourra donner, on verra bien.
Merci beaucoup, Gilles Dequin.
Je vous en prie.
Merci. Vous êtes donc enseignant-chercheur en informatique à l'Université Picardie-Jules Verne et directeur de l'unité de recherche modélisation, information et systèmes. Ce soir, de 18h30 à 20h, vous animez une rencontre-débat autour de la question de l'intelligence artificielle. Celle-ci est organisée par l'Université populaire d'Amiens dans le cadre de son cycle de conférences « Penser notre présent ». Compte tenu de la situation sanitaire, la rencontre se déroule en ligne, donc sur Zoom, et est en libre accès. Donc vous trouverez le lien sur le site internet de l'Université populaire d'Amiens.
Cette émission arrive à son terme. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et un très bon week-end. On se retrouve quant à nous lundi, midi 18h comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien.